tous, il est 15h et je suis avec Sylvie pour l'émission Des lecteurs sous les toits. Bonjour Sylvie.
Bonjour, bienvenue à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Delmer, que nous avions reçu déjà pendant les correspondances et que nous avons eu le plaisir de recevoir aussi mardi soir pour le comité de lecture. Et Julien, il est poète, il est écrivain, il est slameur. Bonjour Julien.
Bonjour.
Donc Julien, il était venu en 2013 pour son premier roman qui s'appelait Georgia, publié chez Grasset. Et nous l'avons retrouvé en septembre pour son deuxième roman, Frères des astres. Avant d'être auteur de romans, Julien est aussi poète. Julien, tu as écrit des recueils de poésie.
Oui, j'ai commencé par la poésie. Plus précisément, j'ai commencé par le slam, donc cette forme de poésie orale qui prend source et qui prend corps sur la scène devant un public. Et j'ai écrit effectivement 6 recueils de poésie avant d'écrire mon premier roman qui est paru en 2013, mais que j'ai commencé à écrire plusieurs années avant. Et voilà, je continue d'ailleurs à écrire de la poésie. Hein, c'est pas du tout un abandon de la poésie que d'écrire un roman. J'aime bien naviguer entre les genres. J'ai aussi écrit un livre pour enfants qui doit paraître cette année. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est l'écriture sous toutes ses formes.
Oui, et tu es à Manosque pour donc une résidence d'auteur. En quoi consiste ta résidence ?
Alors, une résidence d'auteur, c'est un concept assez intéressant. L'idée, c'est d'accueillir un écrivain, une écrivaine, mais ça peut être aussi, par exemple, un illustrateur jeunesse ou un auteur de théâtre. Et pendant un temps déterminé, là, en l'occurrence, c'est 2 mois et demi, la ville de Manosque met à ma disposition, en l'occurrence, un logement, et je suis censé à la fois écrire, donc me réserver du temps pour un travail d'écriture libre, complètement libre, et des animations sur le territoire, donc qui prennent la forme soit d'ateliers d'écriture, comme je peux en mener déjà depuis mon arrivée, j'ai pu en faire à l'école internationale, des rencontres, comme j'ai fait mardi dernier à la médiathèque de Manosque. Ça va être aussi des lectures publiques, des performances, etc. Donc l'idée, voilà, c'est de se partager entre le temps d'écriture et un temps de partage et de rencontre avec la population.
Oui, à la médiathèque. D'ailleurs, tu animeras un atelier d'écriture et de déclamation de poésie. Les gens écriront eux-mêmes leur poésie. Et ça se déroulera donc les lundis 20 mars et les lundis 24 avril à la médiathèque de Manosque. Voilà, les inscriptions sont déjà ouvertes. Vous pouvez vous adresser à la médiathèque. Nous, on t'avait fait venir, surtout, mais pas que, pour tes deux romans. Georgia. Donc peux-tu nous faire un petit peu le résumé de Georgia ?
Alors Georgia, c'est un roman poétique, c'est-à-dire que c'est une langue que j'avais voulu travailler presque comme un poème en prose. Le résumé, disons que c'est une histoire d'amour contemporaine entre deux êtres qu'apparemment tout éloigne et qui finissent malgré tout l'espace d'une parenthèse amoureuse par se retrouver, par échanger autour des mots et des corps. Le premier personnage s'appelle Venant, c'est un sans-papier d'origine sénégalaise qui vient en France au départ pour faire ses études et puis qui très vite les abandonne parce qu'il est en quête de papier, qu'il n'arrive pas à renouveler son inscription à la fac, donc il devient travailleur au noir comme beaucoup de ses compatriotes. Et il rencontre un soir en rentrant du travail Georgia, qui est française, elle, qui vient de Normandie, qui est une artiste un peu maudite, on dirait, c'est-à-dire une artiste qui peint dans une sorte d'absolu, un peu comme Van Gogh, qui se perd dans les couleurs, qui se drogue beaucoup aussi, et qui est elle aussi une forme d'étrangère, même si elle n'est pas étrangère de papier, elle est étrangère, elle est en marge, disons, de la société, elle est en dérive, et ben voilà, ces deux êtres un peu... un peu abîmé, se rencontre, se porte à un moment, échange, sème, oui, sème, c'est le mot. Et puis voilà, la vie et ses tribulations font que leur relation ne dure pas, mais que chacun garde en soi une sorte de brûlure, une sorte de souvenir vivace de cette rencontre. Et puis chacun ensuite va vers son destin. Donc, pour résumer, c'est un roman, oui, poétique, social et un roman d'amour, je pense. Oui. Contemporain, ça se passe aujourd'hui en France et maintenant.
Ouais, il y a des moments où on a vraiment envie de les slammer, même certains passages qui sont vraiment très très musicaux, très très rythmés. Tu le lis à haute voix quand tu l'écris?
Disons que j'écris, oui, souvent c'est plutôt dans la relecture qu'intervient le moment où j'oralise, ouais. C'est-à-dire qu'une phrase, effectivement, elle trouve vraiment sa musicalité à travers la voix. Ceci dit, ça n'a rien d'original, hein. Flaubert déjà le faisait avec son gueuloir, Madame Bovary et tout ça. Donc c'est effectivement, la voix permet, oui, de mieux peut-être sonder la justesse, la musicalité d'une phrase, oui. Oui. Donc, mais ceci étant, bon, j'assume complètement, non seulement j'assume, mais je revendique de mon appartenance au mouvement slam. Moi, c'est le slam qui m'a fait naître à la poésie et à l'écriture. Après, je suis toujours un petit peu circonspect quand on dit que c'est quelque chose qui se slam. Moi, mes textes de slam sont très différents. C'est quelque chose que vraiment je destine à la scène, qui est où je ménage vraiment une musicalité, une rythmique, une efficacité. Ouais, j'ai pas peur du mot efficacité. C'est-à-dire quelque chose qui soit vraiment percussif et percutant à l'oral. C'est quand même très différent de ce que je fais dans mon travail dans les romans, ou même dans certains textes de poésie d'ailleurs. Mais effectivement, oui, il y a une musicalité. Mais moi, malgré tout, il y a ces deux choses que je, il y a pas de hiérarchie, hein. Pour moi, mes textes de slam, je les place pas moins haut ou plus haut que mes romans. C'est simplement, c'est deux genres différents. Moi, quand j'écris du slam, c'est vraiment à destination de la scène. Voilà, et là c'est plutôt quand même à destination d'une lecture plus conventionnelle, même si ça m'est arrivé de lire en public effectivement des extraits des romans, parce que pour moi c'est le meilleur moyen de faire se rencontrer un texte et un public, c'est d'abord passer par la parole, ouais.
D'ailleurs, peut-être qu'après la petite pause musicale, tu pourras nous lire un passage de Georgia.
Mm-hmm. Volontiers. Les ombres qui passèrent sur le pays ces jours-là ne furent remarquées ni par les météorologues ni par les muscadins qui contemplaient le ciel aux terrasses des troquets. Dans la soute, les yeux de venance étaient clos. les nuages se teintaient de gris, un léger voile planait sur la ville. Venant s'emporter avec lui des années de désillusion, quelques amitiés forgées par la débrouille et un amour, fruit acide de l'insomnie, un amour de soupente de vitres brisées. Il gardait, plus violent que l'infarctus qui avait eu raison de son acharnement, la brûlure d'un prénom, Georgia. Ce prénom vole entre les pages du livre, ne cesse de se dérober. Georgia ment, déploie la minuscule bobie de sa vie qu'elle tresse d'osier et de chanvre. Georgia n'a jamais tué personne, on ne meurt pas d'une chanson. Venant s'était épris d'une ritournelle nostalgique à en crever. Du fond de la soute, la mort n'a guère de remontrance, elle veut simplement que l'on se souvienne, au milieu du chant monotone des paraboles, du tintamarre des métros bondés, qu'un nègre avait voulu exister en dehors de sa terre natale et qu'il n'obtint en écho qu'une cartouche de mépris. Ça, c'est le premier chapitre qui ouvre le livre. Donc le livre Georgia, il y a pas de surprise, le personnage meurt dès la première page du livre, donc il y a pas de suspense, c'est pas un polar où on recherche l'assassin, le coupable à la limite on pourrait dire que c'est le destin, et en fait on retrace à partir de la séquence où le personnage principal Venance meurt, on retrace son passé, en fait on va à rebours de sa vie pour remonter son passé jusqu'à sa rencontre avec Georgia. Je vais vous lire un autre petit extrait du roman qui est le moment où je parle de la chanson Georgia, parce que comme point de départ à l'écriture de ce livre, il y avait la chanson de Ray Charles, bien sûr, Georgia on my mind, une chanson mélancolique, pétrie de nostalgie, puis une chanson aussi qui est ambiguë, parce qu'elle parle à la fois d'une femme, mais aussi d'un pays, la Géorgie, au sud des États-Unis, qui est un pays qui est tristement connu aussi pour l'esclavage, pour les champs de coton, pour la ségrégation. Donc voilà, Georgia, c'est vraiment une grande ambiguïté. C'est tout à la fois un prénom d'une grande douceur et aussi ça dessine des paysages un peu inquiétants, un peu ensanglantés. Donc voilà, c'était sur ce prénom que je voulais revenir dans ce chapitre. Georgia est une chanson qui passe de bouche en bouche, une chanson mille fois reprise. Chacun se remémore les violons de la complainte de Red Charles, la route, le clair de lune effleurant les pins, l'amour étendu là comme un pneu crevé, le parfum des résines brûlantes, le sud qui n'en finit jamais. On peut préférer à la mélancolie de l'aveugle au piano la grâce paralytique de la version de Billie Holiday. Sur un lit d'hôpital, les draps amidonnés, la mort goutte à goutte, la morphine comme seule rédemption et la mélodie qui vous triture le cœur. Quand Louis Armstrong chante Georgia, un négrillon trébuche, s'entaille les jambes sur un tesson de solitude. La voix console le gamin, lui susurrant que le destin n'a pas de limite, que les rêves courent plus vite que les chiens et qu'au bout de la route, un refuge auréolé d'or pur recueille les fuyards sans leur demander de montrer patte noire. On dit que la chanson se fit entendre pour la première fois il y a plus d'un siècle. Un bluesman dont le nom s'est perdu dans un cendrier voulait parler d'une femme, une négresse des champs, les bras tièdes comme des épis de maïs avec des cheveux de jet avec un rire de tortue. Mais très vite, il sentit qu'il causait d'autres choses, que la négresse se confondait avec les sillons de labour. Cette femme était un pays, un continent. Son nom battait l'amble de territoires plus vastes. La Géorgie est un songe qui galope. Le bluesman a posé 5 accords parfaits. Et sa chanson a traversé l'âme des suppôts de cabaret des nègres d'arrière-salle. Tous ceux qui l'écoutaient posaient leurs verres de bourbon, cessaient de parler, de danser et plongeaient dans l'air éteint. Alors, ils pouvaient se noyer, respirer le sud, sentir les cailloux, les écorces des rivières, le fioul. Georgia, plus qu'une ritournelle, devint une photo sépia qui lentement brûlait. Une robe de mariée au milieu des chardons.
Il
Julien vient de vous lire des extraits de son livre « Georgia », qui est paru chez Grasset en 2013. Son second roman, « Frères des astres », est différent. Nous suivons le jeune Benoît dans son étrange traversée de la France. C'est un garçon simple et bon, animé par une foi sans réserve. Ses idoles sont Jésus et la Vierge Marie. Et à la mort de son père qu'il adorait, il reste avec sa mère et ses nombreux petits frères et sœurs. Mais sa mère boit, et il n'aime pas les hommes qu'elle reçoit. Il part sur les routes sans argent, avec pour seul effet l'écharpe de son père, un chapelet et un évangile. Peux-tu nous en dire plus ?
Oui, c'est un roman qui m'a été inspiré par un personnage qui a réellement existé au XVIIIe siècle, un saint qui s'appelait Saint Benoît Labre, qui est contemporain de Mozart, qui est vraiment né au milieu du XVIIIe et qui meurt juste avant la Révolution. C'est aujourd'hui le saint patron des inadaptés sociaux, des sans domicile fixe et des vagabonds. On le surnommait l'hirondelle de grand chemin ou le pouilleux de Dieu. C'est quelqu'un qui a très vite, dès l'âge de 16 ans, qui avait la conviction que sa vie ne pouvait pas se dérouler dans une certaine norme. Ses parents le destinaient à être prêtre, ses parents étaient des petits laboureurs, là je parle du vrai personnage, hein, de Saint-Benoît Labre, des petits laboureurs du Pas-de-Calais, et puis lui a décidé de marcher à travers l'Europe à pied, en mendiant sa pitance, en dormant dans les fossés, en chantant et en célébrant la nature. Il est très proche de Saint-François d'Assise, sauf que lui il prêchait pas, il était vraiment souvent le plus souvent solitaire, et il est mort après un immense périple tout autour de l'Europe, entre l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, à Rome, sur le porche d'une église de Rome, et très vite il a acquis une dimension de sainteté, puisque les gens ont affirmé qu'il y avait eu des miracles. Mais au-delà de cet aspect-là, strictement religieux, moi ce qui me fascinait dans la figure de Saint Benoît Labre, c'est justement cette espèce d'allègement de soi, ou comment un homme choisi comme ça, poussé par une incroyable force qui lui fait endurer le froid, la faim, le rejet, le mépris de ses contemporains, traverse comme ça, désarmé, avec une joie et un sourire permanent sur les lèvres, traverse la vie comme ça en vagabond, en passant. Voilà. Donc j'ai décidé d'adapter un peu la vie de Benoît Labre, et je me suis dit, tiens, comment on pourrait imaginer aujourd'hui quelqu'un de nos jours, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, qui naîtrait aussi dans le Pas-de-Calais, un gamin comme ça, différent, un peu à part, que ses copains ne reconnaissent pas vraiment, qui est un peu rejeté, que les psychiatres catalogue un peu comme bipolaire, vaguement schizophrène, enfin voilà, ils savent pas trop, différent, disons, un gamin qui a de la compassion pour le moindre crapaud qu'on maltraite, qui vit en contemplation permanente de la nature et qui s'arrête devant chaque croix qu'il croise sur le chemin. Donc voilà, quelqu'un qui aujourd'hui prendrait la route et vivrait un peu dans cet allègement, cette espèce de satisfaction juste d'être vivant au milieu de la création. Et voilà, donc c'est tout un périple, c'est un roadbook, c'est un hommage aussi à la Beat Generation, à Kerouac et à Neil Cassady, entre autres, voilà, des gens qui... Sauf que là, l'aventure, c'est pas la Grande Amérique sauvage, c'est plutôt une France un peu particulière, parce que je la décris vraiment du nord au sud, et puis je la décris aussi de manière, je crois, un peu enchantée. Moi, l'idée, c'est que les paysages que traverse mon personnage, Benoît, soient des paysages à la fois réalistes, d'une France en crise, d'une France qui se replie, mais aussi d'une France un peu enchantée, avec des rencontres incroyables, d'autres marginaux, qui sont des gens troublants, qui sont des gens attachants, et voilà, de pérégrination en pérégrination, de kilomètre en kilomètre, des terrils du Pas-de-Calais jusqu'aux calanques du sud de Marseille, on suit vraiment à la trace notre personnage dans son périple. Donc voilà, c'est un livre qui est très différent effectivement du premier, même s'il y a beaucoup de liens. Il y a des liens dans le sens où Benoît est aussi un grand marginal, Georgia avait peut-être aussi une dimension un peu de sainte, une sainte paradoxale, une sainte à l'arraché, on va dire, une sainte un peu fracassée, mais malgré tout, et elle partageait avec Benoît cette idée que le monde intérieur est parfois capable de s'il est assez fort, si la flamme en vous est assez forte, il est capable de vous faire traverser certaines turpitudes avec une sorte d'innocence, même si tout paraît vous souiller, vous heurter, vous bousculer, vous salir. Les deux personnages, Georgia et Benoît, ont ceci en commun, c'est qu'ils traversent le monde avec une incroyable lumière en eux, en fait, qui est pas forcément de l'ordre rationnel, qui est une lumière qui est mystique, ouais. Ce sont deux romans mystiques, mais Frère des Astres est bien plus souligné, je pense, que Georgia.
Oui, il fait des rencontres incroyables. Il rencontre, on pourrait lire le livre à travers les rencontres que Benoît fait. Ça commence avec une jeune fille noire qui met des affiches d'avis de recherche le concernant, puisque, sa mère est inquiète, il est parti, il est tout jeune et il est tombé un petit peu amoureux de cette fille qu'il croise très très brièvement. Il rencontre aussi la patronne d'une station d'essence un peu 68arde, mmh. un médecin psychiatre qui va être fasciné par Benoît. Il rencontre des jeunes qui vont le frapper mais qui vont le regretter presque aussitôt. Il rencontre un berger, il fait des tonnes de rencontres dans des lieux fort bien décrits. Je pense à Chartres. Mmh. Chartres.
La cathédrale de Chartres, oui, il tombe nez à nez avec un pèlerinage de chrétiens, on va dire orthodoxes, pour pas dire intégristes, disons de tendance un peu Saint-Nicolas du Chardonnay, quoi. Et donc, il se retrouve à la fois fasciné par ces chrétiens avec qui il partage une foi ardente, mais complètement décalé, parce qu'évidemment, notre personnage, il est dépenaillé, il sent pas très bon, il sent même pas bon du tout, et puis il est, voilà, c'est un individualiste, un mystique un peu sauvage, lui, donc il a du mal à intégrer la convenance, la liturgie, le rituel, et donc il se fait un petit peu bousculer par ses frères chrétiens de manière même assez rude. Et donc voilà, il se retrouve à prier tout seul à Chartres et à se demander effectivement comment concilier sa soif de liberté et d'individualisme avec effectivement les exigences d'une communauté, d'une collectivité, de l'Église, etc. C'est quelqu'un qui à la fois dans la foi et hors de l'Église, parce qu'il est trop radical pour intégrer une communauté de croyants traditionnels. Lui, c'est vraiment c'est un peu l'homme au désert, quoi. C'est un peu le prophète au désert. Donc c'est quelqu'un qui prêche même pas par l'exemple, je dirais, qui prie en vivant, qui prie en marchant. Voilà. Je pense que il est assez étrange, ce roman, parce que finalement, il s'y passe pas énormément de choses. C'est une longue succession de pas et de prières adressées à tous les éléments, aux étoiles, aux brins d'herbe, aux ruisseaux, aux torrents, et puis aux hommes quand ils en croisent. Mais c'est finalement et c'était volontaire, hein. C'était vraiment on chemine au pas lent de ses pas, et Benoît, c'est un roman joyeux, hein, même si le personnage parfois endure le pire, il a toujours le sourire, il a toujours une sorte d'enthousiasme permanent, et donc on chemine, voilà, au gré de ses émerveillements.
Et quand il est à Chartres, là, qui se fait quand même un petit peu malmener, il y a quand même un personnage, il y a une jeune fille, qui est fascinée par cet homme qui prie, et elle lui dit, vous êtes beau quand vous priez. Et il lui répond, c'est parce que je suis amoureux, en regardant la Vierge.
Oui, il y a un côté naïf dans sa foi de Benoît, mais je pense qu'il y a il y a un côté aussi, comment dire, d'abandon. C'est quelqu'un qu'on peut pas juger, je pense, à la fin du livre. On peut pas dire si effectivement les médecins ont bien fait de lui donner des pilules quand il était petit, ou si c'est quelqu'un de d'heureux envers et contre notre définition plus commune du bonheur. C'est-à-dire que sa situation n'a rien de désirable, mais il est heureux. Alors, est-ce qu'il y a encore de la place pour les gens qui sont heureux dans d'autres sphères, avec d'autres dogmes, d'autres manières de percevoir les choses. Lui est fondamentalement heureux, amoureux, donc il se plaint pas de sa situation. C'est pas du tout une apologie de la misère. Au contraire, il y a un moment, il croise à Paris, quand il y a une longue étape à Paris, il va dans un centre où on distribue des petits déjeuners à des SDF, et là, lui, il est effondré parce que c'est pas du tout cette misère dégueulasse, subique, où vraiment les gens sont essorés. Lui, c'est un allègement volontaire qui pratique le personnage. C'est vraiment une sorte de sobriété heureuse, disons, poussée un peu jusqu'au bout, quoi. C'est un peu la doctrine de Pierre Rabhi, qui rencontre d'ailleurs après, entre parenthèse, en Ardèche, à un meeting à Privas. Mais voilà, lui, c'est vraiment une forme de manière de privilégier l'être sur l'avoir. Voilà, le fond sur la forme, c'est quelqu'un qui se soucie absolument pas de son apparence, de comment il peut passer, mais qui se soucie par contre de sa vérité, de son rapport aux autres, au monde, et voilà, qui est dans un respect incroyable de la vie. C'est quelqu'un de fondamentalement traversé par un surplus de vie, à la limite, qu'il a du mal à gérer, et qui donc il dilapide au milieu de ses pérégrinations, de ses pas.
Oui, puis en fait, il ne porte jamais aucun jugement. Même quand il traverse la souffrance, il ne porte pas de jugement, il est toujours égal à lui-même, heureux.
Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois que c'était qu'il y avait un côté gênant dans ce personnage parce que il y avait un côté, comment dire, je sais pas s'il m'avait dit pas intégriste, il a pas dit intégriste, mais totalitaire, pas dans le sens, évidemment, il a aucun pouvoir, donc il peut pas l'exercer, mais quelqu'un qui effectivement est sans aucune, d'une immense radicalité, c'est-à-dire que il juge pas parce qu'il estime que voilà, effectivement, le jugement n'appartient qu'à Dieu, son corps même lui appartient à peine, finalement, il est qu'un, voilà, il l'a reçu et il le déplace en fonction des forces qu'il a, c'est tout. C'est quelqu'un qui effectivement va jusqu'à, comment dire, non pas se négliger, enfin si, au niveau de son hygiène et tout ça, mais je veux dire, pas se négliger, mais se dépouiller au point presque de se confondre avec le paysage. À un moment, on a l'impression que j'ai l'impression, parce que moi-même, je ne sais pas les motivations profondes, je sais où je l'amène, mais je ne juge pas non plus mon personnage, au fond. Voilà, mais je pense que c'est quelqu'un qui veut aller jusqu'à la transparence, c'est-à-dire que son idéal, qui est peut-être évidemment étrange, ce serait de se confondre avec le paysage, avec la création. Donc d'être tellement un passant, tellement translucide, diaphane, qui se confonde avec le paysage, ce qu'il finit par faire effectivement dans cette dernière escapade dans les Calanques, où effectivement il est baigné de lumière et il est confondu littéralement dans le paysage. Ouais.
Est-ce que tu nous choisirais quelques petits passages à nous lire ?
Histoire de Benoît. C'est une histoire de poux, d'errance et de sainteté. C'était hier, il y a longtemps. Depuis, bien des arbres ont rouillé, des usines ont fermé, des enfants ont goûté l'acier, des vieillards ont mordu la souche. Il va falloir raconter comment une âme dégoupillée de grâce s'est éparpillée sur les plaines, les vallons, les avenues. Une âme vêtue d'une peau de secours, une peau rendue illisible par la crasse, puante à nos narines et douce pourtant, au vent qui l'a frôlé, aux anges qui l'a veillé. Il va falloir raconter cette peau coloriée au pastel de l'enfance et l'effroyable beauté de ce visage que l'usure, la faim ne dissuadèrent pas de sourire pour recevoir chaque matin le baptême des rosées, l'onction acide des pluies. Ce visage qui souriait aux abeilles, aux rats, aux gamins des dunes et à chacun de nous. Cette âme, cette peau, ce visage avait un nom. Un nom de famille même, comme chacun de nous. Ce nom a été oublié quelque part dans les plis de l'époque. Nous l'appellerons l'enfant, le pèlerin, le marcheur, le pauvre, le pouilleux, le délabré. Le plus souvent, nous l'appellerons Benoît. Le village d'Amet attend le fracas des cloches, la pétarade des mobilettes, un bruit quelconque qui justifie l'éveil. L'horizon est une toile craquelée où le brin des sillons s'accroche en empattement. Une basse mélancolie pèse au flanc du monde. Les feuilles mortes cisaillent l'air. Le ciel entaché d'ombre achève de donner au jour sa face mortuaire. Le nord rumine sa peine. Benoît vient d'avoir 8 ans. Il est accroupi près de la mare, une branche de noisetier à la main. Ses épaules sont engoncées dans un gros blouson d'hiver. Immobile, au bord de l'eau, stagnante, l'enfant semble méditer. Son visage est ingrat, taillé à la serpette, avec une curieuse asymétrie des yeux et de la bouche. Ses cheveux blonds découvrent un front bombé. Son regard aigue-marine contraste avec le ciel. Le cresson s'agite d'un vent léger. L'enfant renifle, tâte une boursouflure sur sa pommette. Il s'est battu tout à l'heure. Les gosses du village avaient capturé un crapaud moche et râpeux. Après lui avoir coupé les pattes au canif et enfoncé un pétard dans le derrière, les mômes s'apprêtaient à allumer la mèche, tout excités à l'idée du joyeux feu d'artifice. Cela avait déplu à Benoît, qui avait protégé la bête entre ses mains calleuses blessées par l'eczéma. Il avait encaissé quelques mandales auxquelles il n'avait opposé que le silence. Les autres avaient fini par s'éloigner, l'insulte aux lèvres. La lumière rase les collines, vient modeler son visage. Benoît dépose la bestiole agonisante sur l'herbe. Il n'en veut pas à ses camarades qui le prennent pour un extraterrestre avec sa sensiblerie et sa gueule de traviole. La plupart des villageois, jeunes et vieux confondus, se méfient de ce drôle de gamin qui caracole sous les ornières, caresse l'écorce des sorbiers, pose des chausse-trappes aux étoiles, toujours seul. Dans les rues, à l'épicerie, dans la cour de l'école, on l'appelle l'autiste ou bien le babache. Benoît le sait, qui continue à sourire. Le crapaud se vide de son souffle, de son sang. L'enfant sonde la vase. De fines bulles éclatent à la surface. Le temps lui semble long. Le temps le cloue au sol. Dans son jeune crâne, tout est brouillon, brouillard. Des pensées comme des bulles d'air. La branche flotte un instant, puis coule. Les collines noircissent. Il faut rentrer. Dans quelques jours, le printemps est censé revenir, pour l'heure domine le froid et l'obscurité. Le chemin est court jusqu'à la maison. Quelques rangées de troènes, un château d'eau, forteresse de la plaine et partout, les champs labourés, les sillons gras, huileux, comme des tripes étales. De grands corbeaux prélèvent leur part des semences, bec dur contre la terre, pupilles jaunes, menaçantes. Le village est perché sur un tertre verdoyant, l'enfant gravit les pentes boueuses pour retrouver la départementale. Dans le virage, la chapelle est éclairée. La statue de la Vierge irradie d'une clarté timide. Le vent abandonne les branches, l'enfant se fige, il ne dit rien, ne sait que dire. Le regard aimanté par le halo des cierges, il projette son ombre sur la figure de plâtre. Il ne sent plus le froid. Il n'a plus peur des grands oiseaux noirs, de la nuit qui s'avance. Il se souvient d'un geste, un mouvement de la main qui survole la poitrine et le front. Ce geste rituel entrevu à la messe pour l'enterrement de sa grand-mère. Benoît se signe à l'envers, puis à l'endroit. Sa poitrine se comprime, des larmes lui viennent, sincères et sans raison. La compagne s'assombrit. L'enfant hâte le pas. Derrière ses épaules, une nouvelle lumière. We'll be right back.
is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath.
Après l'extrait de Frères des Astres de Julien Delmer, Julien va peut-être nous... Tu as écrit des poèmes, donc peut-être tu peux nous parler de tes poèmes, de ton travail de poète, et puis nous faire le plaisir de nous lire quelques-uns de ces poèmes.
Oui, comme je disais au début de l'émission, j'ai commencé même par la poésie. D'abord la poésie orale, le slam, et puis des différents recueils, 6 aujourd'hui de poésie. Les 2 derniers sont parus en 2015 et 2016. Bogolan en 2015 au Temps des Cerises, qui a donné lieu d'ailleurs à un spectacle avec un contrebassiste que je tourne pas mal en ce moment parce qu'il a été labellisé par le Printemps des Poètes, comme le thème est Afrique au pluriel cette année. Donc Bogolan, c'est un recueil qui se déroule à Saint-Louis du Sénégal. Et donc voilà, c'est un recueil qui est vraiment lié un peu à la thématique de cette année du Printemps des Poètes. Et sinon, le tout dernier qui vient de paraître en 2016 s'appelle Rose Pirogue. C'est aux éditions Mémoire d'Encrier, une maison d'édition que j'estime beaucoup. C'est une maison d'édition franco, on va dire québéco-haïtienne, puisque elle est même clairement québécoise, mais c'est Rodney Saint-Éloi qui la dirige, qui est donc un poète et un éditeur haïtien réfugié, qui habite à Montréal, et c'est une maison d'édition qui publie énormément d'auteurs haïtiens, Dany Laferrière, Mackenzie Orcel, James Noël, Davertige, Anthony Phelps, Georges Castera, etc. Et voilà, donc c'était pour moi un grand plaisir et un véritable honneur que d'être publié au milieu de tous ces poètes que j'admire beaucoup. Donc Rose Pirogue, c'est assez différent de ce que vous avez pu entendre peut-être dans Georgia ou dans Frères des As. Ce sont des poèmes courts, comme des petits tableaux. L'inspiration va de l'érotisme à la mélancolie, à la révolte. Enfin, c'est un autre aspect de mon travail. Je vais en lire plusieurs. La première s'appelle La sagesse nue. Poème érotique, je précise pour les auditeurs. Ouais, il est tôt pour, non, il est jamais tôt pour l'érotisme. 15h39, c'est même l'idéal. Clarté maladroite posée sur l'oreiller. Le lait d'amande prélude l'aube. Taisons les violences, l'enfer et ses mousquetons, en cette seconde où l'univers s'écroule. Quand tu me suces, avec l'art perdu des mangeuses d'ambre, la salive à rebrousse-peau. Tu branles à demain les lendemains sans fenêtre ni chambranle. Tu sais que les guerres s'arrêtent à l'armistice d'une orchidée. Un baiser est un drapeau blanc, le sang n'a jamais craint le feu. Tu es savante, sans rien savoir, de la raison d'être deux. Un autre poème, toujours un peu dans le registre érotique, comme une fois qu'on a commencé, on ne sait plus s'arrêter. La crique. Comme l'aveugle sous les décombres, ébranlé, chamboulé, je déchiffre le braille des sources, la quadrature mouvante de ton cul. D'un index timide, j'effleure le canyon pourpre où soleil reprend haleine. Ton bel Eldorado éclipse Maya à la renverse du mystère. Ton sexe s'ouvre, c'est une crique semée de cyprès et de pins. Tes lèvres méduses tièdes colonisent mes joues. Je découvre la palpitation inédite, interdite de l'être qui exulte. Comme l'aveugle sous les décombres, éboulé, écroulé, je donne à la vie la preuve par le gouffre. Celui-là s'appelle Libéré, délivré. Petit hommage à la Reine des Neiges, bien sûr. Prisonnière d'un quatrain, des rimes pauvres du sang, tu t'émancipes dans le fracas d'une saison battue à mort. De toute incertitude, tu as fait couverture et tutelle de neige. Je voudrais rosir ton flanc avec la verge d'un ciel ployé, le grêlot d'un lépreux tamisant le flou des hivers. J'entends la catastrophe s'enfuir à cloche-pied, la repentance des créatures entre les guillemets de ta voix. Et un petit dernier pour la route. Celui-là s'appelle Argumentaire des pluies. Il est dédicacé, dédié à un auteur que j'admire énormément, qui s'appelle Hubert Haddad, qui est un immense romancier, poète, qui publie essentiellement son œuvre chez Zulma, dont le dernier livre est extraordinaire, s'appelle Dernière neige sur Pondichéry, et qui vient tout juste de paraître, là, au tout début janvier de cette année, 2017, et qui est, encore une fois, j'allais dire, parce que tous les livres d'Hubert sont extraordinaires, mais qui est vraiment un grand, grand livre, donc voilà. C'est dédié à Hubert Haddad, Argumentaire des pluies. J'ai dégoupillé la science, son insolente soumission à la logique des caniveaux. L'amour plongé au formol n'est qu'un symptôme du temps sacré que l'homme restaure au mortier de l'empathie. Marie Tournelle en cartouchière, je cible l'origine, comme un sniper tuant sa race les yeux fermés. J'ai brassé la bière violente qui fait monter la mort aux joues. Sans que la haine ne m'épaule, j'ai enfoui la fleur humaine en terre d'exil. L'huile a baissé les ampoules, rincé les moteurs et les voix. La chanson qui s'élève de mes ruines est plus rouge qu'un charbon. Voilà pour la poésie, enfin mon dernier recueil. Et voilà, donc là pour la résidence, j'écrirai pas de poésie, je pense que j'écrirai un scénario. C'est pour ça que je suis venu essentiellement à Manos, c'est pour voilà, essayer d'adapter un de mes romans en scénario. Donc voilà, une autre forme d'écriture, mais finalement tout se rejoint.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, ces fluctuat nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors.
Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Merci Julien pour les pour lectures de tes poèmes.
On n'a pas voulu interrompre Brassens quand même, ouais. C'est retenu.
Donc les poèmes que tu nous as lus étaient extraits de ton recueil, de ton dernier recueil, qui s'appelle Rose Pirogue.
Rose Pirogue, aux éditions Mémoire d'Encrier. Alors ne croyez pas les libraires qui vous disent qu'ils ne l'ont pas. En fait, il faut chercher un petit peu, commander, creuser un peu, mais il est tout à fait disponible. Mais c'est vrai que c'est le problème des éditions de poésie qui sont évidemment moins bien distribuées que les romans, surtout les romans chez les grandes maisons d'édition. Mais voilà, en faisant un petit effort, en fouinant un peu dans les différents distributeurs, on finit quand même par le trouver. Voilà. Mais je sais que c'est moins simple, donc vous étonnez pas si parfois on vous dit il est pas là, il faut insister. Gentiment.
Alors, mardi dernier, tu nous as fait le plaisir aussi de nous parler des auteurs qui t'avaient nourri. Et on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce que tu peux nous parler de quelques-uns des auteurs qui sont qui t'ont marqué terriblement?
Oh bah oui, là j'avais fait une petite sélection la fois dernière parce que c'est vrai que il fallait montrer un petit peu des choses diverses. Bon, j'ai parlé d'Hubert Haddad, ça tombe bien, Première neige à Pondichéry, donc le grand livre à lire là je pense de cette rentrée littéraire. Il y a Aimé Césaire, toute l'œuvre d'Aimé Césaire. J'ai commencé avec le cahier d'Arthur au pays natal, mais que ce soit Nous la Minère, que ce soit Cadastre, que ce soit Fermant, enfin tout, y compris aussi son œuvre théâtrale et son œuvre théorique, Le discours sur le colonialisme. Je veux dire, voilà, toute l'œuvre de Césaire a été déterminante pour moi. J'ai parlé de la littérature haïtienne. C'est vrai que de toute la poésie en langue française actuellement, c'est elle qui me touche le plus. Et pas seulement la poésie. Moi, il y a les grands classiques comme Compère Général Soleil de Jack Stephen Alexis. D'ailleurs, Jack Stephen Alexis, il y a un inédit qui sort toujours chez Zulma le mois prochain qui s'appelle L'Étoile Absinthe, un roman que tout le monde croyait perdu et qui ne l'est pas en fait. Et donc, il y aura voilà un événement littéraire pour les amateurs de littérature haïtienne, L'Étoile Absinthe de Jack Stephen Alexis qui sort le mois prochain chez Zulma. Jacques Roumain, un autre auteur haïtien très proche d'Alexis, qui a écrit un livre extraordinaire, un des plus beaux romans d'amour que j'ai jamais lu, peut-être même le plus beau, qui s'appelle Gouverneur de la Rosée. Donc c'est aussi disponible chez Zulma, qui est décidément une très bonne maison d'édition. J'avais cité Jean Genet, bien sûr. Tous les livres de Jean Genet m'ont emballé dès le départ. Je pense que en termes de prose poétique, c'est vraiment le meilleur. Donc j'avais mis Le Miracle de la Rose, mais j'aurais pu mettre aussi Notre-Dame des Fleurs ou peut-être même mon préféré, qui est Querelle de Brest, qui est vraiment un livre extraordinaire, une sorte de plongée, une bulle très étrange, très magnifiquement écrit. Qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, Albert Cosseri. Ça, je tiens aussi à parler d'Albert Cosseri parce que malheureusement, il est un petit peu tombé en désuétude. C'est un superbe écrivain qui est né au Caire, en Égypte, mais qui était francophone, qui était d'expression française. Toute son œuvre a été écrite en français à Paris, dans un petit hôtel, la Louisiane de Saint-Germain-des-Prés, où il a passé la majeure partie de sa vie. Et il écrit des romans courts et incroyables qui se déroulent tous dans les bidonvilles du Caire, avec une faune de gens touchants, drôles et en même temps misérables, avec une sorte d'humour et puis une sorte de douce anarchie, un peu à la Brassens, qui plane sur ses bouquins. Albert Cossery, quand on lui demandait quel était son objectif quand il écrivait, il disait « J'aimerais que les gens qui me lisent refusent d'aller travailler le lendemain ». Donc je trouve ça assez chouette comme démarche. J'avais mis quoi ? Oui, il y a Hubert Selby Jr. Ouais, bon bah ça c'est le choc hein, de littérature américaine, Last Exit to Brooklyn, Retour à Brooklyn aussi, que les gens connaissent parce qu'il a été adapté par Aronofsky sur le film Requiem for a Dream. Donc là c'est une écriture extrêmement dure, violente, syncopée, des personnages qui sont vraiment à la dérive, et en même temps une sorte de possible rédemption, une sorte de... En tout cas, un regard très très compassionnel qu'a Hubert Selby sur ses personnages. Un immense écrivain. Volodine, un romancier vivant pour qui j'ai une très très grande admiration, qui a créé le mouvement du post-exotisme, et puis qui a écrit des livres, une trentaine de livres, qui sont tous aussi incroyables les uns que les autres. Le tout dernier, pour lequel il avait été invité à Manosque, Terminus Radieux, pour moi c'est un... Voilà, peut-être qui est sorti de mieux dans ces 10 dernières années en littérature française, ni plus ni moins. Et voilà, une des rares personnes que je qualifierais de génie, parce que génie en soi, j'y crois pas trop, je crois surtout au travail, mais lui, quand on atteint ce niveau-là d'imagination, de créativité, de style, il écrit merveilleusement bien. Donc dans Antoine Volodine, ouais, c'est un génie. Sinon, oui, Jacques Dupin, voilà, un peu de poésie, un poète, ami de René Char, que j'adore, que je trouve qui est mort il y a pas si longtemps, une dizaine d'années, qui a écrit des recueils comme Le Corps Clairvoyant ou Ballast, qui sont une poésie vivante, sanguine, vraiment comme un forgeron qui creuse, qui forge, une poésie très très minérale, très liée au paysage. C'est un grand 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 ami de René Char, donc quelqu'un aussi voilà qui est lié au paysage. D'ailleurs, la plupart des paysages qu'il écrit sont ceux aussi de la région, donc voilà, Jacques Dupin à découvrir. Voilà, c'est un petit tour d'horizon, il y en aurait d'autres, hein, mais voilà, c'est déjà, oui, déjà pas mal.
C'est déjà bien. Donc, vous pourrez retrouver toute cette bibliographie sur le site des médiathèques de la DLVA. Et Julien, je crois que tu as des rendez-vous pour février, mars, à nous communiquer.
Alors oui, j'ai des rendez-vous. Alors, il y en a certains qui concernent pas forcément les auditeurs, puisque j'ai beaucoup d'ateliers en février, mais à partir dans les collèges, notamment au collège de Fort-Calquier, à l'école internationale et au lycée Martin-Bray, ça ce sera mes principales activités en février. Mais en mars, il y a une première rencontre publique auquel je serais ravi que vous veniez. C'est tout près d'ici, c'est à la MJC de Manosque. Ça se passe à 19h le jeudi 23 mars. C'est dans le cadre du Printemps des Poètes, et donc c'est sur le thème Afrique au pluriel. Et c'est une soirée slam, poésie et musique, même exactement. Donc en fait, vous êtes invité, si vous le voulez, à venir avec des textes que vous avez écrits ou des textes d'auteurs, pas forcément de poètes, hein, ça peut être de chanteurs, de gens que vous aimez, sur le thème de l'Afrique, l'Afrique plurielle, et venir les lire à partir de 19h, donc à la MJC de Manosque, le 23 mars. Et moi, je serai tout simplement l'animateur, le MC de la soirée, et je lirai sans doute aussi quelques-uns de mes textes sur cette thématique là. Et voilà pour le mois de mars. Non, une rencontre, un café littéraire à Vitrolles, mais Vitrolles, ça fait un peu loin d'ici, le 21 mars aussi à 10h, mais retenez surtout la médiathèque, le 23 à 19h, voilà.
Oui, et puis tu vas également animer des ateliers de...
Ah, on l'a dit, mais on peut le redire, je crois que il vaut mieux le redire, oui, oui, tout à fait. Le lundi 20 mars, toute la journée, de 9h à midi et de, en gros, 13h30 à 16h30 ou 14h-17h, à la médiathèque de Manosque, des ateliers d'écriture, les inscriptions sont libres, c'est des groupes de 10, donc soit le matin, soit l'après-midi, et et pendant 3 heures, on écrira. Je vous fournirai des petits exercices ludiques et sympas autour de l'écriture, et puis pour les ateliers d'écriture, et puis on fera aussi un petit peu de mise en voix. Voilà, donc c'est ouvert à tous, c'est gratuit, et je serai vraiment ravi de vous retrouver le lundi 20 mars à la médiathèque de Manosque. N'hésitez pas à contacter la médiathèque, soit par mail, soit par téléphone, soit encore mieux en y passant directement.
Voilà, quant à moi, je vous rappelle notre prochain comité de lecture qui aura lieu le 21 février, donc comme d'habitude, le troisième mardi de chaque mois, à 18h à la médiathèque de Manosque.